Bonjour à tous. Je suis heureux d'avoir pu prendre du temps dans la prière ce matin pour Liam. Il y a 2 jours, nous avons eu une réponse à la prière ici sur Kevin, dans le sens où nous avons prié pendant plusieurs mois pour une église qui se trouve à Paris, qui était sans locaux, sans espace pour annoncer l'évangile. Et on a prié pour eux parce qu'à Paris, ouvrir une église, pouvoir proclamer l'évangile, ce n'est pas toujours facile. Et il y a 2 jours, je leur expliquais que, voilà, je crois que Dieu a répondu. Il leur a donné la possibilité d'avoir un prêt, d'avoir les moyens, ils ont les locaux, ils vont se mettre en route. Et ça a été vraiment une réponse à la prière. Et je leur donnais le témoignage de Kevin. Je crois, n'est pas le fruit de la bonne volonté de Michel, qui est la pierre initiale de l'Église apostolique ici, qui est au milieu de nous. C'est Michel qui, depuis le début, dans les années 70, a été appelé par Dieu et qui a eu à cœur d'annoncer l'Évangile et puis, par la suite, a été appelé à ouvrir un espace, un lieu de culte. Si vous allez, je dis toujours, moi quand j'ai mes habitudes comme ça, quand on visite le coin ou fait visiter le coin à des personnes, je vais toujours, je leur propose toujours d'aller prendre un café. Je ne vais pas dire l'endroit parce que sinon vous allez y aller, puis je ne vais pas avoir la table qu'on aime bien avoir avec Francine, mais dans un café qui a la vue sur mer. Et puis, pour aller dans cet hôtel-restaurant qui est vraiment sur la mer, avec plein de mouettes autour, c'est un indice, après vous le trouverez, eh bien, on passe devant une maison jaune à l'Armor, et sur cette maison, il y a marqué en fer forgé Elkana. Les propriétaires ne sont pas chrétiens, mais c'est là qu'a commencé l'Église apostolique, ou en tout cas un groupe de chrétiens. Et puis, quand l'Église, dans son histoire, je ne vais pas faire toute l'histoire, a été amenée à chercher un espace pour répondre à l'appel de Dieu qui nous concernait, c'est la famille de Liam. C'est leur histoire. S'ils sont là, tous les quatre, c'est un beau témoignage parce que c'est leur famille qui a fait qu'à Kevin, il y ait des chrétiens qui se rassemblent. Et nous, quand on a cherché où devait être l'Église apostolique, ça nous a été une évidence qu'une femme qui s'était convertie dans les années 50, qui était propriétaire avec son mari d'une andouillerie, etc., c'est cette femme-là qui s'est convertie et qui a emmené à sa suite toute sa famille depuis les années 50 et où le message de l'Évangile est là, présent, jusqu'à cette génération. Il y a 3 garçons ici qui sont la suite de cette conversion de cette femme. Et que l'Église qui est ici, elle est le fruit de cette fidélité, de cette foi. Et je disais au pasteur et à son épouse de Paris, nous avons vécu cela à Kevin. Vous êtes appelés à vivre la même chose pour vous à Paris. Alors je témoigne toujours de la famille Texier, Nanf, en disant, Dieu a agi puissamment. Amen. Alors je suis heureux et je demande vraiment que Dieu bénisse et continue de bénir cette famille, que son évangile continue son œuvre dans toutes les générations, celles qui sont encore là et qui sont d'hier, mais celles qui sont d'aujourd'hui et aussi de demain. Amen. Alléluia. Ce matin, je me disais, dimanche 20 décembre, ils s'attendent tous à une prédication sur Noël. Je suis sûr que Christine, qui est frustrée de ne pas avoir eu un culte de Noël, elle qui est tellement impliquée pour que les enfants puissent avoir... Elle se dit, on va avoir un culte quand même de Noël. Et puis j'étais là, peut-être qu'elle va être déçue, puis d'autres aussi. Alors je vais vous dire quels sont les textes que j'ai à cœur de lire et qui serviront de base à ce partage. Le premier... C'est, je vais dire 3 mots ou 4, si c'est en français, c'est Ça va pas être très difficile, Patricia. C'est Genèse chapitre 1 et verset 1. Et dans vos Bibles, vous verrez, c'est pas difficile à trouver. Hein? Pour ceux qui ont une Bible, parce que malheureusement aujourd'hui, on a moins sa Bible avec soi à l'église. Et je le regrette un peu. Hein. Il y a le rétroprojecteur ou le vidéoprojecteur maintenant. Donc il y en a qui cherchent leur Bible tout de suite. Voilà. Verset 1 de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa. Ça, c'est pour moi un verset qui est un verset tellement fort. Au commencement, Dieu créa. Oui, d'accord. Je vois que certains se disent, mais alors le rapport avec Noël Bon. Deuxième texte, ça va être l'évangile de Jean, chapitre 1 et verset 1. Ah oui, là aussi, c'est pas trop compliqué. Quatrième évangile, chapitre 1 et verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà les deux textes que j'ai choisis ce matin de partager avec vous à 4 jours de Noël. Et je dois dire que ces deux textes sont, à mon sens, des textes qui sont fondateurs de la volonté du Père de révéler son amour en Jésus-Christ pour tous les hommes. Alors vous trouverez sans doute étrange ce choix de ces textes en ce temps de l'année à l'approche de Noël, et peut-être que pour entretenir l'ambiance, souhaiterions-nous entendre le récit des mages qui viennent d'Orient, des bergers qui passent l'éveil de la nuit dans les campagnes de Bethléem, les anges en chorale acclamant la naissance du Fils de Dieu au milieu des hommes? Ouais. Mais la lecture que nous faisons de ces deux textes donne un autre éclairage. Parce que c'est vrai que notre lecture des textes de Noël est fortement édulcorée par une vision bucolique, romantique, même, je dirais, aseptisée du sens profond de Noël pour nous. Car enfin, j'ai envie de dire, qu'est-ce que sont les mages? Hein? Que sont les mages? Ce sont des hommes qui se sont lancés dans une quête quasi désespérée, en parcourant des centaines et des centaines de kilomètres pour trouver celui qui doit naître et qu'ils veulent voir régner sur leur vie. Parce que c'est cela qu'ils disent. Nous cherchons le roi qui vient de naître. C'est-à-dire celui qui a l'autorité pour régner. C'est une foi étrange de ces hommes. Étaient-ils 3, 4, 5, on ne sait pas. Le texte ne nous le dit pas, hein, contrairement à nos croyances. On parle de rois mages, mais ce sont des mages qui se mettent en route. Ils apportent 3 cadeaux, mais étaient-ils 2 à apporter un cadeau, 1 pour l'autre? On ne sait pas. Toujours est-il que leur foi est étrange, parcourir autant de chemins en fixant une étoile, un point lumineux dans l'obscurité de la nuit. Une étoile vivante qui vibre et semble montrer une direction, quand toutes les autres étoiles du ciel sont immobiles, statiques. Ces mages, des hommes assez fous pour se mettre en route, pour trouver un enfant et vouloir qu'il soit roi, qu'il règne sur leur vie. Un roi qu'ils cherchent tout d'abord dans le palais somptueux de Jérusalem ou à proximité. À proximité, probablement. Parce que le roi à venir ne peut naître que dans un palais, c'est bien cela, la réflexion des hommes. Ce qui a de la valeur ne peut être que dans un écrin, un palais. Roi qu'ils trouvent dans le plus misérable des lieux, à peine digne d'un homme, encore moins d'un enfant. Mais cette naissance à Bethléem, est-ce que ce n'est pas une préfiguration de l'entrée de Jésus dans ma vie? Car sincèrement, lorsque Christ est entré dans ma vie, mon être intérieur ressemblait plus à une étable qu'à un palais. C'était pas un intérieur bien rangé, nettoyé. Souvent, on en plaisante avec ma femme. Quand on était fiancés, elle est montée une fois pour chercher quelque chose dans ma chambre, rue de Keramzek à l'Armor, parce qu'il y avait quelque chose à y prendre. Quand elle a vu elle a ouvert la porte, qu'elle a vu l'état de la chambre, elle a refermé vite. C'était loin des standards helvétiques du rangement. Voyez-vous? Elle disait à nos enfants, après, elle disait, il y avait du chenille. C'est pas des animaux, hein, du chenille. Il y avait du désordre. Mais il y avait plus que du désordre et de la crasse dans ma vie, dans mon être intérieur, quand le Christ est venu naître en moi. Je vous l'assure. Est-ce que ce n'était pas aussi votre cas? Est-ce que ce n'est pas encore votre cas aujourd'hui? Peut-être que certains aujourd'hui parmi nous se disent, mais intérieurement, est-ce que je peux? Est-ce que je suis digne de recevoir Jésus? Lorsqu'il est venu, dans une étable. Oh, c'est loin de l'image romantique, vous savez. Allez dans une étable bretonne, vous verrez que ça sent pas bon, que c'est pas propre. Même s'il y a des normes d'hygiène, elles sont rarement destinées aux hommes ou aux êtres humains. Eh bien, Christ accepte de s'incarner dans ce lieu. Une manière de dire, là où je vais me tenir et où je vais frapper à la porte, et si l'on m'ouvre, même si à l'intérieur, cela ressemble à une étable, parce que j'ai vécu des choses tellement loin de la pensée de Dieu. Mon être intérieur est tellement malsain, si éloigné de la sainteté de Dieu. Comment pourrais-je ouvrir? Je me tiens à la porte et je frappe. Et si tu ouvres, je rentrerai. Et je viendrai manger avec toi. Seigneur, c'est pas propre. Je rentrerai parce que mon désir est de venir dans ton intimité et de te rencontrer. Quand j'étais jeune homme et que j'ai eu mon premier logement au Havre, parfois il m'arrivait d'inviter des amis ou que des amis arrivent à l'improviste et je leur disais en entrouvrant la porte, vous pouvez repasser dans 5 minutes, histoire de ranger un peu avant que vous entriez. On voudrait dire cela au Seigneur. Est-ce que je peux te laisser à la porte un instant? Je vais nettoyer. Pas la peine. C'est lui qui va faire le nettoyage, qui va transformer mon être. Jésus frappe encore à la porte de notre cœur, comme il le dit dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Nous pouvons encore avoir honte de le laisser entrer dans un lieu si peu honorable qu'est notre vie, notre cœur. Une place où le péché a peut-être laissé tellement de place, tellement de traces. Mais c'est là qu'il veut être. En nous, avec nous. Au commencement, Dieu créa. Au commencement de la bonne nouvelle, il a fait Jésus délibérément le choix de l'abaissement et de l'humilité. Le message de Noël, c'est cela. Et quand la Bible commence par « au commencement », il faut imaginer que c'est ce commencement où la parole créatrice accepte de descendre au milieu de sa création. Comment pouvait-il accepter cela? Au commencement, il fait délibérément le choix de l'abaissement, de l'humilité. Ce roi des rois, ce seigneur des seigneurs, celui qui était au commencement de toutes choses, il accepte de venir. Celui sans lequel rien ne serait advenu. Celui-là est né dans une étable et aujourd'hui, à chaque jour, nous entendons sa voix qui nous dit « Laisse-moi entrer !» Laisse-moi entrer, je veux être avec toi. Au commencement, Dieu. Ce sont les trois premiers mots de l'écriture. Au commencement. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. J'aime ce verset. Parce que même s'il est traduit en quatre mots, au commencement, mais Bereshit, c'est au commencement en hébreu, en un seul mot, les vrais commencements, chers amis, ce sont les commencements qui sont créés par Dieu. Au commencement, Dieu créa. Vous savez, on aimerait bien parfois vivre des commencements nouveaux, mais ceux qui durent dans le temps, qui s'inscrivent dans le temps et se prolongent dans l'éternité, trouvent uniquement leur origine en Dieu. Tu veux vivre de nouveaux commencements? Tu veux vivre quelque chose de nouveau? On a parmi nous des personnes qui sont concernées d'une manière très précise. Notre frère Omid souhaiterait bien qu'il y ait un nouveau commencement et nous prions pour qu'il y ait dans son parcours de vie un nouveau commencement. Peut-être parmi nous y a-t-il des hommes, des femmes qui sont aussi dans cette démarche. J'aimerais que la vie m'offre un nouveau commencement, quelque chose de nouveau, de différent. Peut-être avez-vous cela au plus profond de votre cœur. Je vous le dis. Au commencement, Dieu créa, c'est l'ordre de la création qui dure dans le temps. Rien de nos commencements ne dure véritablement si cela ne trouve pas ses racines dans la personne de Christ, dans la volonté du Père dans ma vie. On peut avoir des commencements, je peux commencer à apprendre à jouer aux échecs, je peux commencer une nouvelle relation avec un ami, une amie, je peux commencer plein de choses. Mais ce qui dure, c'est ce qui trouve son origine en Dieu. Le livre de la Genèse tente de nous donner un récit de la création, de l'histoire de la création. Mais en fait, ce récit de la création, il ne peut être véritablement compris qu'à la lumière de l'évangile de Jean. Vous savez, ceux qui essayent d'imaginer ou de définir une doctrine de la création, on va dire voilà comment ça s'est passé. En fait, le récit de Genèse, chapitre 1, 2 et 3, ne peut se comprendre qu'à la lumière. La clé, c'est le prologue de l'évangile de Jean. Et d'ailleurs, les deux textes commencent par les mêmes mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est ce Dieu-là, Christ, parole de Dieu, qui rend les choses possibles, qui les fait advenir. C'est vrai dans la création du ciel et de la terre. Ça l'est aussi dans notre vie. Tu veux vivre des choses qui durent, qui soient éternelles? Alors laisse la parole de Dieu s'installer dans ta vie. Laisse cette parole incarnée qu'est Christ rentrer dans ton existence et accomplir cette œuvre de création. Oui, je veux vivre des choses qui soient éternelles. Dans ma conversion, ça a été le moment clé. Moi qui vivais dans les cités HLM, une des images que je garde de ma jeunesse, c'est être assis sur une cage d'escalier devant une avenue dans une cité HLM et de voir passer les voitures, les piétons, les gens qui... Et d'être assis là pendant des années et de me dire, ça ne changera pas. Rien ne changera pour moi. Tout restera comme cela. Il n'y a aucune espérance. Il n'y a aucun projet dans mon existence. Jusqu'à ce qu'à 15 ans, j'entende parler de Jésus-Christ, de cette parole qui a créé le ciel et la terre et qui s'est adressée à moi en me disant, « Et toi, est-ce que tu veux que j'entre dans ta vie et qu'il y ait le commencement de choses nouvelles ?» Vous savez quoi ? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Parce qu'à l'instar de Pascal, dans son pari, je me disais, j'ai rien à perdre. Qu'est-ce que j'ai à perdre que de croire en la capacité de Christ de transformer et de faire des choses nouvelles. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a une petite vingtaine ou 30 ans quand même, 30 ans où j'ai accepté de rencontrer un témoin de Jéhovah qui venait frapper à ma porte. Et j'ai accepté de le recevoir à condition qu'on soit, lui et moi, en tête à tête et non pas un binôme face à moi comme ils sont souvent. Et il a accepté. Pendant quelques mois, 3-4 mois. Et l'une des conditions, c'était de dire, je suis d'accord qu'on parle, mais alors tout ce que nous partagerons devra être fondé sur l'Écriture. Et l'un des textes qui a chopé très rapidement, c'était le texte de l'évangile de Jean dans son prologue, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Cette parole que Jean définit comme étant la personne de Christ, Jésus-Christ est Dieu. Et dans la Bible, la traduction de la Bible des témoins de Jéhovah, il est écrit ceci, « Et la parole était comme un Dieu, avec un petit dé. » Parce que pour les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu. Il n'a pas de nature divine. Or, comment pourrait la parole de Dieu, qui ne serait pas Dieu, accomplir un acte de création aussi phénoménal que ce que nous vivons et ce que le cas dans lequel nous existons, cette terre, l'univers, les étoiles, toute la création, si elle n'était pas Dieu? Et comment Jésus-Christ pourrait-il accomplir une œuvre de nouveau commencement dans ma vie s'il n'était pas Dieu? Nous avons eu cette discussion pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à un moment donné où j'étais veilleur de nuit à l'époque, donc je le rencontrais l'après-midi. Ce n'était pas Jésus qui frappait, c'était ce fameux témoin de Jéhovah, accompagné de son responsable régional. Et j'ai dit, mais le contrat, c'était que ce soit face à face, un à un. Et le responsable régional dit, non, on a décidé que, ce frère ne viendrait plus vous rencontrer. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Il me dit, vous le déstabilisez trop. Je dis, c'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et cette parole est venue, elle s'est incarnée, c'est Jésus. Jésus est le commencement, vous savez, c'est son être même, la puissance et l'autorité de sa parole qui rendent possible tous les commencements. La naissance de Christ à Bethléem, c'est le moment de bascule de ce nouveau commencement de l'univers tout entier. Les plans de Dieu s'inscrivent à ce moment de césure. Le commencement est là. pour l'univers tout entier, pas simplement pour les hommes. Le commencement est là. Amen. Alléluia. Parce que cette parole puissante de Christ qui a fait émerger l'univers, créer la terre et tout ce qu'elle contient, cette parole vivante incarnée se propose d'entrer dans chacune de nos existences. Au commencement était la parole créatrice. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux lors de la création. Elle plane aussi, ce Saint-Esprit, il plane aussi au-dessus de nos vies pour assister à de nouveaux commencements. Savez-vous cela ? Le Saint-Esprit plane, pas simplement au-dessus du tohu-bohu originel. Le Saint-Esprit plane à l'heure actuelle et sa volonté, parce qu'il est envoyé par le Père et par le Fils, c'est d'accomplir la pensée de Dieu dans nos existences. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir ce Saint-Esprit pour qu'il y ait de nouveaux commencements ? Avons-nous cette foi en Christ ? Avons-nous le désir de voir les choses nouvelles s'accomplir au plus profond de nous ? Ah, nous avons de bonnes raisons de ne pas l'accepter. Vous savez, quand les mages sont arrivés, ils se sont dit, on cherche un roi, on suit l'étoile, etc. Et on va le trouver certainement à Jérusalem, là où à proximité, là où Hérode le Grand a fait construire un magnifique palais. Certainement, ça va être là. Et il semblait que l'étoile, a priori, prenait cette direction. Donc on va aller voir le roi. Et ils arrivent, vous imaginez, auprès du roi Hérode. Hérode Antipas, pas Hérode le Grand. Hein. C'était le fils d'Hérode le Grand. Et donc Hérode les reçoit, il est roi depuis 3 à 4 ans, maximum, au moment de la naissance de Jésus. Et on lui annonce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a un nouveau roi. Je regardais un petit dessin animé, parce que mes petites filles sont là, et donc on a regardé l'étoile de Noël qui raconte l'histoire de la naissance de Jésus. Et on voit le roi Hérode qui reçoit ses mages et qui se dit, mais enfin quoi, je ne suis même pas prévenu. Je ne suis même pas au courant qu'il y a un nouveau roi. Et puis, ça fait 3 ans que je suis roi. Pourquoi on voudrait me prendre ma place ? Et il est dit que les mages lui ont expliqué. Alors, Hérode a fait ce qu'on lit dans les évangiles, dans Matthieu et Luc. Il a fait, en tout cas dans l'évangile de Matthieu, il fait venir ses scribes, ceux qui savent. Parce qu'il y a des gens qui savent. Y compris dans les églises, il y a des gens qui savent. Mieux que vous, mieux que moi. Et ces gens qui savent, le roi Hérode leur demande, mais il est où ce roi ? Eh bien, vous savez quoi ? Les scribes et les sages et les docteurs, ils sont capables de dire à Hérode où doit naître ce roi. À quel endroit ? À Bethléem. Ils le savent, là. Mais ils n'y vont pas. Ils donnent la réponse à Hérode, alors Hérode dit, voilà, allez-y, puis revenez, dites-moi, je prends l'accent suisse, c'est accidentel, Francine, c'est accidentel. Et donc, il leur demande, allez-y, puis revenez. Et eux, avertis divinement en songe, font le choix de repartir après avoir vu le Christ naissant, de repartir par un autre chemin. Hérode, Antipas, est là, depuis 3 ans sur le trône d'une petite partie du royaume qui a été divisé en 3 par César Auguste, l'empereur, entre lui et ses frères. Il espérait avoir davantage. Et puis, ça n'a pas été le cas. Mais ça fait que 2, 3, peut-être maximum 4 ans qu'il est sur le trône. Il n'a pas envie de choses nouvelles. Pas du tout. Il est dit que ce roi Hérode, lorsque les mages sont repartis et entrés dans une très grande colère. Il ne voulait pas du changement. Il voulait de ce monde tel qu'il était. Alors, dans l'évangile de Matthieu, il est dit qu'il envoya des hommes armés pour tuer tous les enfants en dessous de 2 ans. C'est ce qu'on a appelé le massacre des innocents. Violent cet homme qui ne voulait pas de changement, parce qu'il allait perdre des choses. Il est dit que ce roi, Hérode, Antipas, a tué l'une de ses femmes, a tué 3 de ses enfants, a tué 2 de ses frères, pour que les choses ne changent pas. Il est dit qu'au moment où il allait mourir, il a ordonné que l'on tue les notables, une grande partie des notables de son royaume, pour que, être certain qu'il y aurait des pleurs au moment de sa mort. Pas pour lui, mais au moins pour ceux qui allaient mourir. Pas de changement. Mais vous savez, on se dit c'est un monstre. Qu'est-ce que nous laissons mourir en nous quand nous n'acceptons pas de laisser Christ régner en nous? C'est un monstre, Hérode. Mais si nous regardons nos vies, si nous ne laissons pas rentrer ce roi qui est né, peut-être pas un 24 décembre, mais ce roi qui est né, qu'est-ce qui va mourir en nous de ce que nous sommes, de ce que Dieu a déposé en germe et qui peut advenir, qui peut devenir? Eh bien, nous serons de cette même nature que le roi Hérode en n'acceptant pas que Jésus vienne nous rencontrer, qu'il vienne manger avec nous, qu'il vienne nous aimer, qu'il vienne faire exister ce qui est en germe, ce qui peut devenir. Le temps de Noël est un moment de bascule entre les choses anciennes et les choses nouvelles. Que voulons-nous conserver de l'ancienne vie ou de notre vie qui nous mène à l'échec? Qu'est-ce qu'on veut garder? On veut rester dans le même fonctionnement? Ou bien est-ce qu'on laisse Christ nous proposer sa vie? Conserver l'ancienne vie, ce qui n'est pas soumis à l'autorité de Jésus? Est-ce qu'on veut prendre le risque de basculer dans une vie nouvelle? Cette semaine, j'ai vécu une semaine assez étonnante. Et Jean-Louis et Agnès m'avaient contacté quelqu'un, une personne qui voulait recevoir une visite et préparer ses obsèques, mais qui voulait absolument vivre des obsèques qui ne soient pas catholiques, mais protestantes, et où la place de Dieu, la place de Christ soit proclamée. Alors, ce n'est pas courant qu'on me demande d'aller visiter quelqu'un pour préparer ses obsèques alors que je ne la connais pas. Je dis, si on pouvait vivre un petit moment avant, hein, qu'on puisse vivre ensemble. Et puis, je suis allé la visiter à une soixantaine de kilomètres d'ici, et j'ai vécu un moment, mais je vais vous dire, j'ai vécu un moment de rafraîchissement de ma foi étonnant. Elle m'a fait du bien. Une petite dame qui m'a ouvert la porte et qui a 84 ans. Je ne dis pas que c'est vieux, parce qu'on a des personnes âgées parmi nous qui sont très jeunes et qui ont cet âge-là, donc je ne veux pas prendre de risques. Mais cette femme-là m'a ouvert la porte. Elle est atteinte par la maladie. Mais en même temps, depuis 3 ans, elle a accepté Christ dans sa vie. Depuis 3 ans. Visitée par un couple d'abord d'une assemblée de Dieu de Vannes, puis ensuite par Jean-Louis et Agnès, et puis au fil des semaines et des mois, elle a accepté de vivre des choses nouvelles à 81 ans. Quand j'entends parfois des discours, je suis trop vieux, c'est plus possible, c'est terminé, attends d'avoir 81 ans et tu verras que Dieu peut encore faire des choses nouvelles. Alors pourquoi pas les faire avant, maintenant, pour que ta vie soit au profit de l'amour et de la grâce de Dieu, que de vivre vraiment des choses nouvelles. Et cette femme me disait qu'on parlait, j'essaye toujours de connaître les personnes, et puis on parlait de sa vie familiale, etc. Et elle me disait qu'elle avait eu une vie difficile et un conjoint qui était alcoolo-dépendant. Et je dis, mais alors ça a été difficile? Elle me dit, oui, ça a été difficile. Une vie compliquée, difficile, mais elle me dit, ça, c'était une épreuve. Mais elle m'a dit, alors qu'elle avait 40 ans, elle a dit à son mari avant de partir au travail, elle lui a dit, écoute, s'il n'y a pas de changement, je te quitte. Puis elle est allée travailler. Et lui est parti travailler. Et le soir, il est revenu à 17h30 du travail. Alors elle a été toute étonnée, elle dit, mais tu fais quoi à cette heure-ci à la maison? Alors, il a répondu, ce matin, quand tu m'as quitté pour travailler, tu m'as dit, tu changes ou on divorce? Je ne veux pas divorcer. Il a dit, ah bon? Ben oui, parce que d'habitude, il allait au café, il buvait, il rentrait, il était alcoolique. Là, non. 17h30 à la maison, il a dit, je vais me soigner. Il s'est soigné, il n'a plus touché ni à une goutte d'alcool, ni à une cigarette. À partir de cette date-là, ils ont vécu un temps de couple formidable. Elle dit, ça a été un changement, j'y croyais pas. Au début, je me tâtais, je regardais. Des années jusqu'à son décès. C'est possible, le changement. Lui n'a pas fait la même démarche qu'elle au niveau de la foi, encore que, on ne sait pas. Mais quand elle en parle, elle est touchée par cette capacité qu'il a eue de changer, mais en une journée. Combien de temps faut-il? Me faut-il à moi? Ou te faut-il à toi pour accepter que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, que le changement rentre dans ma vie ou dans ta vie? Tu peux attendre jusqu'à 81 ans. Mais pourquoi pas maintenant? Au commencement, Dieu créa. Le verbe qui est utilisé, créa, bara, Elohim, c'est un verbe particulier. Il est utilisé dans la première phrase de la Bible. Et en fait, le verbe bara en hébreu est, on va dire, à 99% dans l'Ancien Testament, utilisé pour la capacité de Dieu de créer quelque chose à partir de rien. Bara. Dieu créa. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de quelque chose pour créer. Moi, si je veux faire un tableau, il me faut une toile, il me faut des pinceaux, il me faut de l'huile, et puis un petit peu de talent. Bon, le tableau, l'huile et le reste, ça, le talent. Dieu n'a besoin de rien. Au commencement, Dieu créa, il crée à partir de rien. C'est ce qu'on appelle en doctrine le concept ex nihilo. Dieu, à partir de rien, crée quelque chose. Alors bien sûr, certains diront, oui, mais c'était le tohu bohu. Il y avait déjà quelque chose qui était là. Certainement, mais ce quelque chose est né aussi dans l'œuvre de la création de Dieu. Mais tout ce qui a été créé à partir de rien. Aujourd'hui, on croit que l'homme est capable de créer, mais il ne peut créer aucune chose. On a un prof de technologie, je le mets devant son bureau et puis j'ai dit, Michel, voilà, je voudrais que tu me fasses un appareil qui aurait telle ou telle ou telle caractéristique. Il me dit, d'accord, t'as un budget? Je dis, non, pas de budget. T'as le matériel? Non, pas de matériel. Tu fais ça à partir de rien. Mais de rien. Un grand vide. Alors il me dirait, comme dirait Raymond DeVos, bon, d'accord, de rien, c'est compliqué, mais est-ce que tu n'aurais pas un petit rien, ou deux fois rien, au moins pour commencer? Non, 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 rien. Rien de rien. Fais-moi cela. Là, je suis sûr qu'on va commencer à avoir un Michel qui rentrera dans une profonde dépression en se disant, je me rends compte que je ne peux pas. À partir de rien, je ne peux pas. Par contre, si j'ai des éléments, je peux les assembler. Quand j'étais enfant, on avait le jouet de tous les enfants dans les années, on va dire 60-70, c'était le mécano. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était le mécano. C'était des pièces en métal avec des écrous, des vis, etc. On en avait une boîte. Et avec ça, on pouvait fabriquer des voitures, on pouvait fabriquer des moulins, on pouvait fabriquer des petits trains, etc. Plein de choses. Là, Michel, je suis sûr qu'il a eu un mécano dans son enfance pour être prof de techno, hein, ou en tout cas de technologie. Ben, on a quelque chose. Mais là, Dieu, à partir de rien, il a créé l'univers. Ça veut dire aussi que ce Dieu-là que je connais, cette parole créatrice qui m'a rencontré, que j'ai rencontré, est capable à partir de rien de créer l'univers. Est-ce que cette foi que j'ai en lui peut aussi me dire alors, à partir de ce rien qui est en moi, de ce vide que je considère être, il est capable d'accomplir de grandes choses, de merveilleuses choses. Est-ce que je peux prendre ce risque de la foi dans ce Dieu-là? C'est Barthes qui disait, le mystère de la création, c'est que Dieu n'avait pas l'utilité de créer et la création et l'homme. Aucune utilité. Dieu se suffisait à lui-même. Et lorsqu'il part de cela, ce qui a engagé Dieu dans cette volonté de la création, c'est que Dieu ne voulait pas être seul et qu'il voulait avoir aussi à côté de lui une création qui soit unique et indépendante, comme des êtres distincts à côté et en dehors de lui. On ne peut que s'étonner de faire ce constat que nous existons et que nous n'existons que par la volonté de Dieu, par sa grâce et son amour pour nous. Je dis souvent, le prologue de l'évangile de Jean nous dit « Au commencement était la parole ». Et quand cette parole prononcée ou répétée ou rapportée par la Genèse dit « Que la lumière soit », au moment où cette parole prononce ces mots, elle sait que cette parole, pour que la lumière soit, la conduira jusqu'à Golgotha. Faut-il de l'amour de la part du Père pour accepter que cette parole, ce Fils unique, prononce cette parole, que la lumière soit? Faut-il de l'amour du Christ, parole incarnée, pour qu'il accepte de dire que la lumière soit, en sachant ce que cela lui coûterait? Faut-il pour le Saint-Esprit avoir une telle profondeur d'amour pour dire « Mon œuvre sera de ramener cette création au Créateur, de rendre possible la réconciliation ». Voyez-vous l'amour dont nous sommes aimés, chers amis? Voyez-vous l'amour dont nous sommes aimés? Je vais terminer ce temps avec simplement ce rappel de l'évangile de Jean qui s'adressait à Philippe. Il lui disait, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, chapitre 14, verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Ah, cette parole adressée à Philippe, parfois me fait mal, parce que quand je l'entends s'adresser à Philippe, je l'entends s'adresser à moi. Il y a si longtemps que tu me connais, Jean-Marc. Et pourtant, tu ne me connais pas. Je suis avec toi depuis tellement d'années et tu ne me connais pas. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu, est-ce que je le vois là, en ce moment, ce matin, dans mon existence? Cette parole, cette présence vivante de Dieu. Je terminerai avec juste une petite poésie. Je suis un adepte des poésies, j'aime beaucoup cela. Une poésie des mages apportée par Jean Rostand et qui dit en substance que pour recevoir la lumière de Christ, ou apercevoir l'étoile de Noël, ce n'est pas avec la tête et la connaissance qu'il s'agit de chercher, mais avec son cœur. Et au quotidien, dans la simplicité de nos journées, les rois mages, Ils perdirent l'étoile un soir. Pourquoi perd-on l'étoile ? Pour l'avoir parfois trop regardée. Les deux rois blancs, étant des savants de Chaldée, tracèrent sur le sol des cercles au bâton. Ils firent des calculs, grattèrent leur menton. Mais l'étoile avait fui, comme fuit une idée. Et ces hommes, dont l'âme eut soif d'être guidée, pleurèrent en dressant des tentes de coton. Mais le pauvre roi noir, méprisé des deux autres, se dit « Pensons aux soifs de ceux qui ne sont pas les nôtres. Il faut donner quand même à boire aux animaux. » Et tandis qu'il tenait son seau d'eau par son anse, dans l'humble rond de ciel où buvaient les chameaux, il vit l'étoile d'or qui dansait en silence. Rostand dit, ce n'est pas par de savants calculs, par l'intelligence, que nous trouverons cette lumière de Noël, cette lumière de Christ. Il est notre lumière. C'est dans la simplicité de notre vie. Il n'y a pas d'intelligent qui soit sauvé. Il n'y a que des hommes et des femmes qui se placent devant Dieu en toute simplicité. C'est pour ça qu'il est venu dans l'humilité, l'abaissement, pour nous rencontrer, toi et moi, ce matin. Que ce message de Noël, puisque ça en est un quand même, puisse remplir notre cœur de joie. Amen. Seigneur, nous voulons des nouveaux commencements avec toi. Nous ne voulons pas nous fermer aux possibilités qu'ouvre notre accueil de ta personne dans notre vie. Tu frappes à la porte, nous voulons ouvrir. Et nous voulons vivre ces nouveaux commencements avec toi. Au commencement de toutes choses, nous voulons que tu sois. Au commencement de toutes choses, nous voulons être là aussi pour vivre avec toi ce qui est vrai, bon et parfait. Nous voulons que ces temps qui viennent soient des commencements dans ta présence, en tenant ta main, en acceptant les changements que cela suppose. Merci Seigneur de remplir nos commencements de toi, d'ouvrir nos yeux sur ton amour, sur ta grâce, sur ton envie de nous faire du bien et de nous bénir. Amen.